Alors, je vous présente sans plus tarder Alexandre Voisard, donc, qui nous disait hier qu'il était un homme des frontières. Il a habité pendant plusieurs années en Suisse, mais à quelques kilomètres de la France. Maintenant, il habite en France, à quelques kilomètres de la Suisse. mais enfin, les frontières, comme il le dit, existent moins maintenant qu'elles l'ont déjà fait. Né donc en 1930, Alexandre Voisard a publié une trentaine d'ouvrages à côté de la poésie, dont un recueil qui a été très marquant, fameux, « Liberté à l'aube ». Il a publié des proses, je ne sais pas si vous savez, « Un train peut en cacher un autre »,« L'année des 13 lunes ». Il a obtenu en 1994 le prix Schiller pour son recueil de prose poétique « Une enfance de fond en comble » et pour ses courts récits « Maître et valet entre deux orages ». En 1999, il a publié « Au rendez-vous des alluvions », des carnets qui couvrent la période de 1983 à 1998, suivi en 2000 par un nouveau recueil de poèmes « Sauver sa trace ». Il est aussi l'auteur d'un ouvrage autobiographique, « Le mot musique » ou « L'enfance d'un poète ». L'intégrale de son œuvre a été publiée en 8 volumes chez l'éditeur Bernard Campiche de 2006 à 2008. Et à l'automne 2008, il a aussi publié un beau recueil poétique, « Le bestiaire » de Guy Noël Passavant. Alors, donc, Alexandre Voisard.
En recevant l'invitation telle qu'elle m'a été présentée il y a quelques mois, je me suis fait une idée de cette rencontre et de l'intérêt qu'elle pouvait avoir pour moi. Et je me suis dit que c'était peut-être la circonstance idéale pour parler d'un problème tout à fait personnel. En foi de quoi j'ai biaisé un peu la consigne initiale ou le thème même de ce colloque, en ramenant toute cette problématique à des questions d'ordre personnel, finalement peut-être assez terre à terre. Mais enfin, allons-y, les dés sont jetés. Et voici de quoi il retourne. Très tôt, dans ma prime adolescence, j'étais affecté par le virus de la poésie. J'en ai parlé hier soir. À la même époque, c'était en 1944, la guerre n'était pas encore achevée, et je venais de vivre une aventure singulière. J'avais passé une frontière censée infranchissable, et accompagner un groupe de soldats de la Libération durant quelques jours sur le front d'Alsace. Rentré chez moi, mon récit me valut aussitôt une renommée de petit héros de guerre, en même temps qu'une réputation de poète me suivait, véhiculée par des camarades qui avaient découvert quelques-uns de mes textes en fouillant dans mon cartable. À peu près à la même époque, on savait que j'avais commis quelques larcins, tout domestiques d'ailleurs, et que j'avais fait le coup de feu avec des chenapans de mon âge. Il n'en fallut pas davantage pour que mon comportement de rebelle ne me recouvre bientôt, dans ma petite ville, d'une aura sulfureuse et d'une légende qui me suivrait partout. Ma notoriété était d'ailleurs fâcheusement double et paradoxale, puisqu'elle me cantonnait en la canaille, tandis que certains me dépeignaient en rêveur et en poète, qui, dans ce contexte, ne pouvait qu'apparaître dans l'ordre des maudits. Ce portrait de moi perdura longtemps, alors même que j'étais rentré dans le rang, à Sagy, depuis belle lurette. Passé l'aventure et les méfaits, je me réfugiais dans l'apprentissage de la poésie, dont j'avais eu très tôt la révélation. Je fais allusion à ma lecture d'hier. J'avais 15 ans et j'allais de l'avant avec au cœur la certitude que la poésie m'absoudrait de mon passé douteux et qu'elle ferait de moi un homme. Et dans le même mouvement, un poète qui serait écouté des autres. Ce n'est pas pour le pittoresque que j'évoque ces événements, d'ailleurs tout personnels, et qui, présentés ainsi, n'ont en effet qu'un intérêt très anecdotique. Je les ai d'ailleurs relatés dans leur absolue authenticité au long d'une autobiographie sans complaisance qui m'était dictée par le besoin, après tant d'années, de débarrasser enfin ma légende de toutes les faussetés dont la rumeur l'avait grevée. C'est à la mort de mon père que la nécessité d'une confession personnelle s'est imposée à moi avec une violence venue de très loin. Je devais cette vérité à mes descendants. Dans le même mouvement, il me vint comme un devoir envers les miens, à moi l'homme de plume, de retracer aussi précisément que possible l'histoire même de la famille, d'évoquer nos devanciers en remontant à la rame le cours du temps. Dirais-je évoquer ou invoquer ? L'absence totale d'archives familiales allait fâcheusement me limiter aux seules ressources d'état civil et à quelques anecdotes entendues en mon enfance dans les conversations des aînés. C'était bien mince, mais suffisant pour donner quelques réalités à la génération de mes grands-parents. Quand je dis mes grands-parents, je bute aujourd'hui sur une interrogation, certes latente, mais qui persiste à m'alerter étrangement. J'ai eu un grand-père et deux grands-mères. Soit les grands-parents maternels et une grand-mère paternelle. L'absence d'un grand-papa, père de mon père, ne m'avait jamais intrigué ni jamais manqué. Il semblait bien d'ailleurs qu'on ait délibérément fait silence sur cet aïeul énigmatique dans la génération de mon propre géniteur. Celui-ci n'en parlait jamais, ma grand-mère non plus, tout au plus à la fin de sa vie, au gré de l'une ou l'autre confidence, rarissime et vite ravalée, sur un époux fantasque et un père défaillant. Le mutisme à son sujet semblait être de règle de telle sorte que la conjuration du silence ne pouvait que solliciter année après année ce que j'ai fini par considérer par un commun devoir de mémoire particulier. Dans le tableau de famille où quelques aïeux et les devanciers plus ou moins connus sagement se tiennent en leur médaillon, il manque cette figure d'un voisard, Jacques Louis Eugène dit Louis, 1867-1916. Au mur du salon, on a laissé vide la place que son portrait devait occuper. Il y a comme une tache joliment ovale sur le papier peint. Le silence qui a enfermé cette existence m'est devenu à la longue insupportable et il me faut bien en découdre avec les fantômes. Cet homme pouvait ne pas avoir été exemplaire, je ne veux a priori le considérer comme indigne. Et sa mémoire m'importe. Je suis de lui comme mes enfants sont de mon père. Nous nous reconnaissons les mêmes détails dans le visage, des similitudes dans la manière de se tenir, de marcher, dans le rire ou l'oreille, dans le pouce ou le raclement de gorge, dans le goût de la nature et de la musique. Je sais que cet aïeul inconnu m'a légué ses gènes. Je veux me le rappeler en dépit de toutes les exclusives qui ont pu affecter sa mémoire jusqu'à moi. Le sang de cet indésirable coule dans mes veines. Il m'habite donc et désormais il me fait face, me défie. Dans le miroir, je vois s'esquisser une réalité dont j'ai à témoigner, moi, l'écrivain, De ce revenant, je ferai un homme de chair et d'engagement. De quelques menues anecdotes, une histoire qui pourra, qui devra être aussi authentique que ma propre autobiographie. Au travail. Y a-t-il suffisance à nourrir un tel projet ? Est-ce gageure d'auteur obnubilé ? Je refuse de répondre à la question car c'est bien davantage l'exigence de la mémoire de la tribu qui est ici en jeu que la vanité d'un homme de lettres. Enfin, si la mémoire a des devoirs d'inventaire, l'imaginaire revendique le droit à l'exploration et à l'aventure. C'est à cette double condition que notre histoire entrera en toute vérité dans l'histoire. Entre absence et présence, il y a déshérence, errance et désarroi, arrêt sur image, vite, avant l'effacement. Je vous remercie.
Merci Antoine Voisard pour cet exercice pratique de mémoire, de récit autobiographique, récit de soi qui convoque l'ancêtre manquant. Alors, je vais vous présenter maintenant, un instant, je retrouve mes notes. Donc, Juan Manuel Rodriguez Tobal qui nous vient d'Espagne. Alors, il est né à Zamora en 1962, licencié en philologie classique à l'Université de Salamanca. Il est professeur de latin et de grec, poète et traducteur de la poésie gréco-latine. Il a publié Dentro del aire, 1999, La Luvia, je m'excuse la prononciation, mon espagnol est à peu près nul, El Ala, avec une gravure de M.J. Tobal en 2001, Nisi Nino en 2002, ça c'est plus facile, et Grios. Parmi ses traductions, il a traduit la poète Sappho. Catulle, alors je m'excuse, il y a beaucoup de titres en espagnol, alors je vais essayer de... alors, je vais quand même y essayer. Alors, de Catulle, Algunos versos más desvergonzados, L'art d'aimer, d'Ovid, Anacreon, Poésie fragment en 2000, Algunas canciones de la lírica popular et des banquetes de la Grecia arcaica en 2004, El ala y la cigara, bon, il y a d'autres titres aussi que je vous épargne parce que je sais que je vous écorche les oreilles. Il a remporté, en tout cas, et ça je pense que c'est important, le prix de poésie Ciudad de Badajoz en 1998 et le prix international de poésie San Juan de la Cruz en 2003. Alors, donc, je laisse la parole à Juan Manuel Rodriguez Tobal.
Merci. Merci.
C'est bien, ça va? Non.
Ça va? C'est bon. Oui. Bonjour. Et avant tout, j'aimerais
vous remercier tous de votre présence. Et plus particulièrement, j'aimerais dire merci à Louise Dupré de m'avoir invité à prendre part à cette fête de la mémoire. Je vous dis merci à tous, vraiment. Mais je dois aussi vous demander quelque chose. Je dois vous demander pardon pour ces Français barbares et dépenaillés que vous entendez maintenant. Pour ces Français qui exigeraient de vous un effort d'attention, j'ignore s'il vous sera profitable pour comprendre non pas ce que je veux dire, mais plutôt pour comprendre les mots qui disent ce que je dis. Des mots qui, par ailleurs, ne sont même pas les miens, mais ceux de Daniel Marcoux, que s'est chargé de rendre relativement compréhensible pour vous ces mots que j'ai mis entre ses mains. Je suis presque convaincu que son travail a aussi comporté une attentive opération de chirurgie esthétique de ma pensée. Et ma communication a le titre « Les champs liquides, un regard sur la mémoire ». Il y a des épigraphes et les premières de San Juan de la Cruz, Saint-Jean de la Croix, et entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, el espíritu dotado de un entender no entendiendo, toda ciencia trascendiendo. Le deuxième, c'est de Alberto Caeiro, Fernando Pessoa, c'est de la part finale d'un poème. Au rio da minha aldeia, não faz pensar em nada. Quem está ao pé dele, está só ao pé dele. Lorsque j'ai publié Dentro de l'aire, mon premier recueil de poèmes, l'éditeur avait demandé à ce que ce soit moi qui écrive les commentaires de la quatrième de couverture. C'était la norme pour cette collection que les poètes laissent quelques repères psychotropiques à l'usage du lecteur au cas où ces dernières se perdraient. L'éditeur appelait ça une mini-poétique. J'ai trouvé que c'était de mauvais goût. Je suis un ennemi déclaré de toutes les poétiques, qu'elles soient mini ou maxi. Mais je suis encore plus ennemi du langage insipide des quatrièmes de couverture. Plus encore, je suis franchement ennemi des quatrièmes de couverture. Malgré tout, je me suis mis à la tâche et j'ai commencé comme ceci. Dentro de l'aire, et avant tout, un livre de la mémoire. D'une mémoire personnelle qui a moins à voir avec ma petite histoire qu'avec les sons que l'on accompagnait depuis l'enfance. Repêcher la certitude de l'enfance depuis la mémoire des sons, tel a été le labeur que chaque poème m'imposait avec l'apparition soudain et lumineuse de certains mots qui contenaient la musique de mes premières années. Aujourd'hui, je m'approche des poèmes de ce livre que j'aime de plus en plus comme un être d'éloignement. Et j'ai la sensation que ce qui apparaît dans ces vers, c'est la pointe incandescente d'une résonance, celle d'une enfance fluviale meublée de vaseries humides et l'odorant rumeur d'un fleuve éternellement vif qui abrite un seau de pierres et de corps. Ces voix de l'enfance qu'on croyait incompréhensibles, ou mortes, ces sons, leur mémoire, n'étaient pas encore perdus. Là, à l'intérieur de l'air, il y avait les bruits de l'enfance, les noms de l'enfance, les sons qui, enfance, nous allaient droit au cœur. Par Zamora, la ville où je suis né et où je vis, il passe un fleuve. Un fleuve très beau et très grand. Et sachez que j'ai fait cette affirmation depuis un point de vue, disons, précolombien. Le fleuve Duro, pour vous, non? Duro. Le fleuve Duero, le même fleuve qu'ont chanté Antonio Machado et Eugenio de Andrade, et que le grand poète Claudio Rodriguez a nommé dans un poème mémorable le fleuve Duradero, le fleuve durable, peut-être, en français. Et enfin, ce que je veux dire, c'est que je suis un poète de fleuve, et je vous assure que c'est une chose très sérieuse. Il ne s'agit pas d'entrée, pittoresque, mais vient d'une façon d'être poète, au même titre qu'il y a des poètes de mer, de forêt ou de prairie. Pendant les étés de mon enfance, tous nos sœurs appartenaient au fleuve. Nous, les enfants de fleuve, nous avions presque une relation familière, docile avec la mort, parce qu'il arrivait souvent au milieu de nos jets qu'un embagné, on ne peut plus imprudent, finit pour se faire attraper par l'un de ces remous profonds du fleuve que nous appelons à Zamora cabozos, et qu'il périssait noyé. Ici, vous dites parfois des marmites de fleuve. C'est la même chose que les carottes. Et ces malheurs mobilisaient tout l'effort de protection municipale, pompiers, policiers, courriers, et même l'équipe d'onze grenouilles de région côtière du Nord venaient à la rescousse. Cependant, la personne qui finissait toujours par retrouver la triste dépouille du bagné était un vieux batelier du quartier Olivares, qui sondait avec une très longue perche ce fleuve qu'il connaissait comme la rite de son visage. Le poème que je vais maintenant vous lire est tiré de Dentro de l'aire. Je lirai en espagnol après la traduction, d'accord? El ahogado. Como un viejo barquero la memoria, cuidadosa sondea los cabozos del río. Uno a uno recorre sus mortales engaños, las heridas de un fondo que no ha llegado nunca a conocer. Al fin, donde la tierra era más firme, allí donde creyó segura el agua, se hunde lento el varal y da en lo blando. avec les mots de Daniel, dit comme ça, les noyés. Comme un vieux batelier, la mémoire, attentif sont le remue du fleuve. Inaïm parcourt ces mortelles tromperies, les blessures d'enfants que jamais celles n'arrivent à connaître. Enfin, là où la terre est plus ferme, quand elle croit se trouver et nos cires, la perce lentement s'enfonce et frappe dans les mots. De la même façon que la nuit contient est un gendre l'auve, ainsi le saut profond contient et engendre la transparence de l'eau. La mémoire, à l'instar du batelier, me fournissait, et je continuais de citer le poète José Ángel Valente, l'expérience du fond, de l'immersion abyssale qui est gestation d'une nouvelle naissance. Immersion dans les eaux, descend vers le fond, vers la base et le limon primordial du fond. Le poème était alors pour moi une invitation à l'expérience obscure, à l'immersion dans les sons, dans les mots, dans les fonds infinis desquels, qui sait, se trouvaient peut-être ces paroles uniques, celles qui furent, ne nous savons pas quand, notre origine. In principio erat verbum. Si quelqu'un, quand j'écrivais dentro de l'aire, m'avait demandé quelle est la nature de la poésie, je lui aurais probablement répondu que la poésie est un art du langage fait de mémoire et de temps. Un temps extérieur ou objectif, celui qui permettait de sentir le langage comme une musique que j'entendais sans le savoir par la mémoire des sons, par la mémoire des sons, et un temps intérieur et subjectif qui affectait avec la mémoire le contenu du poème. La mémoire, comme la conscience de la perte, d'une pierre fracturée. Quand je me rappelle de ce que je n'ai plus et ce qui n'y est plus. Chanteur, ce qui se perd, c'est un lien commun de la poésie que personne comme les poètes chinois du 8e siècle, Han Yu, n'a si formulé de plus belle façon. Tel est l'homme. Tout ce qui sort de sa bouche se doit à une brisure. Cette conscience de la perte, c'était également être conscient que le temps de ma vie et celle de tous s'est consumé. C'était être conscient, en somme, que tous et moi, nous allions vers la mort. Aujourd'hui, je vois que ces pensées étaient très imprégnées de mes premières lectures du poète Antonio Gamoneda, qui définit la poésie comme l'art de la mémoire depuis la perspective de la mort. À l'époque, c'est aussi que je croyais. Mais pour moi, ce qui était encore plus important que la mémoire temporelle, c'était la mémoire des sons à laquelle j'ai fait allusion dans les commentaires de la quatrième de couverture. L'apparition de certaines voix déterminées qui contenaient la musique dans laquelle l'enfant s'était fait. Oui, avant la pensée et avant la mémoire, la parole venait à moi, la musique de la parole, et avant même cette musique, son silence. Il y a un fragment de poème, mais je crois que je lirai seulement en français. J'ai tardé à venir. J'ai tardé à venir, et après ça, je les garde, Gérard, le silence, car je sais que devant le silence, comparé un son, que tout comme la douleur, n'admet pas de forme. Musique et silence qui faisaient du poème un objet davantage sensible qu'intelligible. C'est seulement quand le poème était écrit que je comprenais ce que me disait ces mots que je venais d'écrire. Je comprenais ma pensée. Il n'y avait rien de plus éloigné pour autant dans mon expérience de la poésie que les conditionnements et la prédétermination. Aujourd'hui, je constate qu'après ce voyage à la mémoire personnelle et collective que supposa pour moi l'écriture de dentro de l'aire, est arrivée de façon inaperçue la recherche de la parole sans mémoire. De la parole non pas créatrice de réalité, mais plutôt réalité en elle-même. Tel encore, la recherche d'une parole capable d'imbuer les miroirs qu'on mettrait devant elle, comme ce qui devrait arriver, selon Picasso, avec toute œuvre d'art véritable, puisque l'art, s'il est vrai, souffle, respire. À tâtons, je reconnais ton sang dans ces seaux qui maintenant ont mal à l'air oubli dans ma mémoire. Mais cette recherche de la parole corporelle et de mémorier, je ne sais pas si, Il n'existe pas ces, ces mots, non? Démémorier, oui. A été soutenu, dans mon cas, et elle l'est toujours, par certaines lectures auxquelles je reviens encore et encore parce qu'elles couvrent toujours mon regard de vieux. Je parle de l'ouvre de deux grands mystiques espagnols, Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, et Juan de Yepes, San Juan de la Cruz. Toute mystique vit une relation essentielle avec le corps. L'aventure spirituelle, c'est une aventure dite corporelle. Les nouvelles de l'Évangile est une nouvelle charnelle. Le verbe se dit cher. Depuis l'appréciation mystique de cette aventure corporelle de l'esprit, Santa Teresa de Jesús écrit dans sa vie : Nous ne sommes pas des anges, nous avons des corps. Italière, dans le même livre, elle dit : Si vous n'êtes pas déterminé à avaler une fois pour tout la mort et la manque de santé, vous ne ferez jamais rien. Avaler la mort et la maladie. Accepter, assumer, et assumer tout naturellement la corporalité. Apprendre la démémoire. Como quien desaprende los aromas, mira su largo hastío, sus pájaros ilesos, su asombro en la inminencia del sonido. Miras como quien aligera el corazón. Con qui desapprend les arômes, tirera sans longue lassitude, ses oiseaux sains et saufs, son étonnement devant l'imminence de son, du son. Tirera con qui allège le cœur. Désapprendre, oui, per trouver ce que Valente appelle la parole matrice ou l'avant-parole. Les logoi spermaticoi, les mots séminaux, destruisiens. Ces paroles qui ne signifient pas encore, mais qui possède la signifiance comme infinie possibilité. Parole à laquelle nous n'arrivons pas par la langage, mais qui s'y manifeste plutôt dans la langage, dans l'innocence du langage. La légèreté aussi est l'innocence qui précède les soupes des fleurs, les citantes musiques, la pureté de ce qui n'a jamais grandi, n'est jamais né. C'est la voix à la serre sous les paupières de ça qui n'a ni yeux ni figure. Aujourd'hui, je ne crois plus que les corps de ceux qui du Paris habitent les marmites du fleuve. Je crois plutôt au souffle même du poème. Peuplé de noyés, ma parole est antérieure à ma connaissance. Il est en scène, et en elle, il n'y a pas de place pour la mémoire. Il y a quelques mois, j'entendis le poète Antonio Ramoneda, qui jouait à remonter dans le temps jusqu'au moment où les hominidés ont acquis la fonation articulée, et avec elle a commencé pour eux la possibilité d'émettre la parole qui nomme et qui font la présence intellectuelle de la chose nommée. Nommer pour la première fois, quand l'homme primitif a dû le faire, n'importe laquelle des réalités cachées, et fonder la nomant sa présence intellectuelle, a constitué, selon l'hypothèse de Gamoneda, un acte de création et de révélation. Ne trouvez-vous pas, nous a-t-il dit alors, que le poète qui part du non-savoir dans la construction de son discours, qui doit réunir les mots dont la signification finale est en pensée, et créer avec eux une réalité intellectuelle et une connaissance jusque-là inexistante, se trouve dans une situation relativement analogue à celle de l'homme primitif. Je dois savoir que j'ai ressenti une petite joie intérieure en entendant cette proposition d'analogie qui me ramenait à la poésie de San Juan de la Cruz, à son savoir sans savoir que j'ai mis un épigraphe en cette réflexion que je suis sur le pont de conclure. Je pense aujourd'hui à ce vieux batelier de quartier Olivares. Et je me dis que comme le poète, l'homme primitif ou l'enfant, il était lui aussi en cherché des formes de puissant savoir sans savoir, que jamais il n'a trouvé les corps d'ennoyer, les corps qu'on paraissait devant lui. Je vais vous raconter un rêve, et croyez-moi, c'est un vrai rêve que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. J'ai participé à un concours littéraire entre poètes et nous devions réciter par cœur les attributs de l'oiseau solitaire, exactement comme San Juan de la Cruz les a définis pour l'apprentissage des enfants d'école. La première, il s'envole au plus haut du ciel. Le deuxième, il ne tolère qu'en compagnie, fût-elle de même nature. Le troisième, il met le bec à l'air. La quatrième, il n'a pas de couleur définie. Le cinquième, il chante doucement. Le prix pour celui qui réciterait le mien, ses attributs, était un oiseau. Un bel oiseau qui avait une tête de la taille de celle d'un chat et aussi douce à toucher. L'oiseau possédait une vertu. On nous disait qu'une fois son hôte décédé, cet animal étrange restait pour toujours à chanter sur sa sépulture. Je n'ai pas gagné les concours, c'est mon ami Ángel, notre poète de Zamora, qui l'a remporté. Cet oiseau, m'a-t-il dit, quand la mère du poème de Lorca connaissait les noms de tous les nuages. C'était le fleuve. Es otra voz esta del río, como si en él un dios cantara de sus verdades verdaderas, una canción dicha por nada y la pusiera en nuestras manos. Y cuánto de él has aprendido, cuando me miras desde el sueño, cuando infinita me posees, cuando me besas o me olvidas, es su verdad la que aquí cantas. Es aquel río te enseñó, la voz que espera en lo que pasa. Elle est autre, cette voix du fleuve, comme si en lui un dieu chantait de ses vérités véritables, une chanson dite pour rien, et la mettait entre nos mains. Et quand tu as appris de lui, quand depuis le rêve tu me regardes, quand l'infini tu me possèdes, quand tu m'embrasses ou tu m'oublies, c'est sa vérité à lui que tu chantes ici, celle que le fleuve t'a montrée, la voix qui espère à ce qui passe. Merci beaucoup pour votre patience.
Merci beaucoup, Juan Manuel Rodriguez Tobal, pour cette parole qui cherche au fond du fleuve, cherche une origine, une matrice, qui est aussi une incarnation, sans doute une corporalité. Je retiens le terme de démémoire aussi, sur lequel on reviendra peut-être, qui vient aussi de la réflexion sur les mystiques et sur notamment Jean-Juan de la Cruz. Alors, troisième communication pour terminer aujourd'hui. Alors, Rachel Leclerc, qui est auteur d'une dizaine de titres, qui a publié notamment en poésie « Les vies frontalières », qui a remporté le prix Émile Neliga, un prix de jeune poésie au Québec en 1991, « Rabatteur d'étoiles » en 1994, qui lui a valu le prix Alain Grandbois. Des romans aussi, « Noces de sable » en 1995, qui a remporté le prix Henri Kefelec en France, et également « Vision volée » en 2004. Ces poèmes intitulés « If » ont remporté le concours littéraire de la Société Radio-Canada avant d'être publié en recueil sous le titre « Demain », prix du marché de la poésie de Montréal en 2008. On reconnaît dans son œuvre, encensée par la critique, une grande maîtrise du rythme et un lyrisme sombre. Les romans présentent des individus aux prises avec la contrainte sociale, familiale ou amoureuse, révèlent une ambition d'alchimiste, traverser l'expérience pour la transmuer en or. Alors, je laisse la parole à Rachel Leclerc.
Merci, Pierre. D'abord, merci au comité. Vous m'entendez bien? Au comité organisateur pour avoir provoqué cette rencontre magique et permis cette réflexion très généreuse et très sensible sur la mémoire et sur l'oubli, peut-être, aussi. Ma contribution s'intitule « La géométrie du bonheur ». Je dois commencer par vous dire que j'entretiens, comme vous, peut-être, un rapport très ambigu avec la mémoire. Il y a des jours où nous croyons que la réminiscence, le souvenir donc, nous apporte davantage de gratification que l'événement lui-même. Puis il y a d'autres jours où, harcelés de souvenirs suspects, ne démêlant plus le faux du vrai, nous sommes convaincus que la mémoire est la plus grande supercherie de notre vie. Et cela nous irrite, car nous nous croyons tenus de témoigner. Sinon envers les autres, du moins envers nous-mêmes. Après tout, n'avons-nous pas été convoqués à titre d'acteurs de la grande réalité? Et ne sommes-nous pas convaincus que la vérité est tributaire de ceux qui se souviennent? Ça, c'est un fantasme de ma part. J'aimerais être neurologue pour vous montrer du doigt la mémoire. J'ai toujours rêvé d'être une chimiste parce que j'étais nulle en mathématiques. Vous montrer où elle se situe dans la tête. Mais je ne peux rien faire d'autre que de poser des questions en vrac. Par exemple, pourquoi tout se passe-t-il comme si je scindais mon siècle en deux époques, l'avant et l'après ma venue sur la Terre? Et pourquoi me berçais-je de l'illusion que ma naissance représente le souvenir numéro un? Ne sais-je donc pas que ce souvenir-là ne répond jamais à l'appel? Il nous précède comme un lièvre courant dans les sous-bois de l'histoire familiale. Et nous perdons du temps à le poursuivre, bien que nous prétendions le contraire, car nous sommes des êtres raisonnables. Supposons que mon souvenir le plus lointain, celui qui se rapproche le plus du souvenir numéro un, donc de ma naissance, soit celui de la jupe de ma mère qui flotte au vent à la hauteur de mon visage d'enfant. Nous sommes debout face à la mer, ma mère et moi, à deux pas de l'eau, et la brise, l'horizon vers lequel nos visages sont tournés, nous apporte la sensation, voire la conviction, d'une présence à la fois très fluide et très dense, une présence qui, a posteriori, se dessine comme un merveilleux avenir peuplé de voix, de visages, de tous les éléments qui sont reliés à notre territoire, à notre histoire à toutes les deux. Or, ce souvenir-là est si ancien. Comment puis-je affirmer qu'il est réel, qu'il n'est pas une fabrication de mon cerveau et même de mon corps, mon petit corps d'enfant devenu grand et qui veut retrouver une sensation? Mais au fond, je n'ai que faire de son authenticité. Il est plus salubre pour moi d'annoncer que ce souvenir numéro 2 devient le numéro 1, attendu que le numéro 1, ma naissance, est tout à fait irrécupérable et que je doive en faire mon deuil. Ce sera donc ce numéro 2, cette pauvre image dont j'ose à peine me porter garante, qui va inaugurer ma vie à mes propres yeux. Voilà, je suis née vers l'âge de 3 ans, le nez dans la jupe de ma mère, sur une grève de pêcheurs désertes. C'était peut-être au fait une plage avec des mères qui avaient pris congé, mais je ne sais plus, nous étions seuls au monde. Et sur cette supposition, je vais fonder ma cosmogonie personnelle. Ainsi, la seule vérité sur mes origines ne peut être due qu'à un mensonge probable, provoqué par un besoin de mère, surtout un besoin de solitude avec elle. À partir de là, avec ma fausse mémoire et mon faux passé, la fabrication du souvenir me permettra de devenir écrivain. Étant doué d'imagination, je suis désormais capable de créer un motif qui se serait trouvé sur la jupe de ma mère et que j'appelle aujourd'hui la géométrie du bonheur. Après tout, la finalité de mon entreprise n'est-elle pas le bonheur, cette chose fuyante et capricieuse? Nous avons souvent beaucoup de mal à défendre cela devant les nôtres. Comment leur faire comprendre que le mensonge littéraire est devenu pour nous plus vrai que ce que contient la mémoire? Que la fiction soit plus réelle que ce réel qu'ils ont naguère partagé avec nous? Le ciment de notre vie se trouve dans les pages de nos livres, mais pour eux, il se trouve dans la communauté du passé. Ils pourront nous montrer leurs stigmates et leurs cicatrices. Nous avons établi avec ce réel une distanciation au terme de longs processus, plus ou moins conscients. Quelque chose de nous a opté pour l'art. j'allais dire donc pour la mémoire. Pour un rapport tout à fait étrange à la mémoire, distordu, indéfendable devant une cour de justice. Mais qu'à la fin, les nôtres nous envient, une fois qu'ils ont compris ce qui nous était arrivé. Laurence Durel, dans son grand roman « Le Quatuor d'Alexandrie », fait dire à l'écrivain Percewarden, ce que nous appelons vivre n'est en réalité qu'un acte de l'imagination. Aussi, sa tétralogie se présente-t-elle comme un long déplacement de caméra, une addition de points de vue qui vient augmenter les possibilités de sens, tout cela érigé à partir de son expérience et sur les fondations d'un désir amoureux de personnages romanesques. Un roman est un palimpseste. Il porte les réminiscences de son auteur, mais il porte aussi tous les livres qu'il ou qu'elle a lus, toutes ses fausses mémoires, et même tous les livres qu'il a imaginés sans pouvoir les écrire. Mais la matière noble de son livre ne se trouve peut-être pas dans toute cette fiction. Réservons cette appellation aux vrais souvenirs de ceux qui sont venus avant nous, qui sont disparus en nous cédant la place. Je la réserve quant à moi à cette unique vraie vérité du corps et de la tête, la douleur. Car même réduite à un substrat méconnaissable, remâché par l'écriture du roman, seule cette douleur humaine mérite le statut de matière noble. Tout le reste existe bien sûr, mais il n'est qu'un jeu, aussi grave et méritoire soit-il. Tout le reste n'est que littérature. D'un autre côté, vivre n'est-il pas justement, au regard de l'écrivain, un lent processus d'oubli et de métamorphose? Ce roman, écrit par un je qui n'est pas moi, cette vérité persillée de fantasmes, libère le vrai moi et le remet à l'humble place qui est la sienne dans l'univers. J'essaie seulement de ne pas rater le délicat persillage du prochain livre, un roman qui tourne autour de mon histoire familiale. Il y a de vraies et de fausses personnes. Il y a des personnes et des personnages. Et à mesure que j'écris, je ne sais plus qui sont les uns et qui sont les autres. Et bientôt, il ne me reste plus que de souverains personnages. Il me faut donc créer un roman sur la base d'un autre roman, celui des ancêtres qui m'ont engendré ou accompagné et dont je suis le banal prolongement. Il y a beaucoup de monde que je n'ai pas connu, mais tous ceux qui sont disparus ne reviendront jamais pour me raconter leur histoire et leur fin, ni pour plaider leur cause. Alors tant pis s'il m'arrive de combler des lacunes avec du mensonge. La fabulation ne pourra pas empêcher la véritable essence de ces hommes et de ces femmes de se révéler à moi. J'ai aussi des problèmes avec les séquences temporelles. Il y a trop de monde, trop de naissances et de morts, trop de mémoires. Voilà qui complique mon travail. Car chaque événement peut être interprété de plusieurs manières, comme le dit Laurence Durel. Et ces manières sont toutes vraies. Ensuite, je retiens pour m'inspirer cet autre passage du Quatuor d'Alexandrie. Parce que j'ai un problème entre décrire la réalité et inventer aussi la réalité. Inventer le passé. Il dit donc, la seule façon d'être fidèle au temps est d'intercaler les réalités. Car en chaque point du temps, les possibilités sont infinies dans leur multiplicité. Vivre, c'est choisir. Perpétuellement réserver son jugement, perpétuellement choisir. Ce qui fait que nos prédécesseurs sont aussi nos contemporains, c'est qu'eux aussi, parce qu'ils devaient répondre à des urgences matérielles, mais aussi à des fantasmes et des rêves, sont devenus les imaginateurs de leur vie. Et il est possible que dans le siècle prochain, au moins l'un des nôtres, un descendant qui ne nous aura pas connus, prétendra à son tour se souvenir de nous dans un livre. C'est qu'alors il aura foi en quelque chose laissé par nous, quelque trace. Ainsi pourra-t-il sentir comme le temps le traverse, lui l'immobile, et ainsi devra-t-il réserver son jugement. Je termine sur une belle phrase du politicien Louis Riel, ce chef métis exécuté par le gouvernement canadien en 1885 pour avoir voulu protéger les droits de ses frères métis, ses demi-indiens et ses demi-blancs. Je cite, « Mon peuple dormira pendant 100 ans. À son réveil, ce sont les artistes qui ranimeront son esprit. » Merci.